Salut Daniel, c'est Philippe de Toulouse. On dit que France Télécom, c'est une grande famille. Et quand un membre d'une famille meurt, tout le monde est affecté. Alors la mort de Jean-Paul, c'est une mort de trop. Puis en plus, on est nombreux à avoir le même âge que lui, mariés, deux enfants. On s'identifie. Moi, je suis comme lui, délégué à la CGT. Et on essaye de pas se laisser broyer. Et c'est pas le départ de Viennès qui va calmer la colère. Il faut un changement total de la politique générale de notre entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la campagne de désabonnement pour des raisons éthiques. Il faut que cette campagne continue. Hier et aujourd'hui, on est en grève contre le fric et les actionnaires et pour la vie. Salut les AMG.
Bonjour à tous. Merci à la base J'y suis d'être une poche d'humanité vraie, émotion comprise. J'espère que la mienne ne me débordera pas en vous témoignant de mon vécu d'agent France Télécom. Je tiens à vous laisser ce témoignage. J'en fais l'effort en hommage à mes collègues assassinés sur l'hôtel du CAC 40. Et pour dire à leurs proches toute ma compassion et leur assurer qu'ils ne pouvaient rien empêcher malgré tout leur amour. Je m'adresse aussi à ceux de mes collègues qui souffrent actuellement, à qui on fait croire et qui risquent de croire un jour, insensiblement mais sûrement, qu'ils n'ont que la valeur que France Télécom leur accorde, c'est-à-dire nulle. Il y a 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, que France Télécom m'avait annulé psychiquement. J'ai eu moi aussi envie de m'annuler physiquement. J'avais envoyé une lettre désespérée à toute ma voie hiérarchique. Au moment des faits, j'attends toujours la réponse. Je suis DAEM 5583, c'est comme ça que je dois me présenter à la plateforme des ressources dites humaines, quand je réussis à contacter quelqu'un, par téléphone bien sûr, parce que les plateformes sont géographiquement distantes des salariés. Isolée, éloignée, c'est une règle de base. Je suis, comme on dit pudiquement, éloignée du service pour raison de santé. Fonctionnaire, plus de 50 ans, reconnue travailleur handicapé par la Cotorep. Fragilisée après une restructuration, ne pouvant pas m'adapter au changement géographique, au changement de métier, autant d'excellentes raisons d'être une bonne employée, car ne l'oubliez jamais, un bon employé de France Télécom est un employé qui part. Mais ça, je n'en avais pas conscience quand j'ai demandé à être reçue par un expert médical pour pouvoir être réintégrée, expliquer ce que je pouvais faire comme travail. J'aimais mon travail, arrêtez d'aimer votre travail. Je ne savais pas, moi non plus, naïve et confiante, que cette personne était payée par France Télécom. Elle ne m'a reçu que le temps de prendre mon nom et mon adresse, n'a pris en considération aucun de mes propos, a refusé les pièces médicales que je mettais à sa disposition. Elle m'a tout simplement chassée de son cabinet. En pleurs sur son palier, j'ai vu arriver les pompiers et la police. Elle leur avait donné la consigne d'amener d'urgence en hôpital psychiatrique une patiente dangereuse.
Bonjour, je suis Michel de Paris. Je finis juste d'écouter l'émission d'hier, Orange stressé. Je crois pas, Daniel, qu'on puisse comparer les suicides d'Orange et le suicide de Yann Palach ou celui du moine à Saïgon. Pour moi, ils sont complètement différents dans la mesure où ceux de Saïgon et de Tchécoslovaquie, pardon, ce sont des actes de protestation. Cette larme ultime qui, déclenchée, symbolise la colère, la résistance, l'humain qui s'oppose avec les moyens qui lui restent face à une force qui est écrasante. Mourir dans ce cas-là, c'est paradoxalement être vivant pour sa conviction, pour sa communauté, pour sa famille. Se soumettre, à contrario, c'est perdre, c'est mourir. Jean-Paul, lui, il est mort et il est bien mort, hélas. Et qui saura son nom, hormis ses proches? Moi, je ne le connais même pas, son nom. Daniel, et puis aussi pour Ciné, qui s'insurge dans son édito cette semaine, ses salariés sont au désespoir. Au désespoir, écoutez bien le ton, la musique des mots qu'ils emploient, tous ces témoignages. C'est des voix de personnes déprimées, mais je dirais même dépressives. Les larmes, elles affleurent partout. Il n'y a pas de révolte matérialisable dans toutes ces voix. Elles disent toutes avec un petit peu de colère quand même, mais pas beaucoup. On est gentil, on est consciencieux, on veut rien d'autre que travailler. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas comme ça que les choses changeront, c'est sûr. Comment elles changeront? Eh bien, cherchons ensemble. Au revoir.
Qu'est-ce que résume la situation de France Télécom? Les salariés n'agissent pas assez pour défendre le coût du travail, pendant que les actionnaires s'organisent pour que le coût du capital placé rapporte des dividendes. En résumé, les uns n'agissent pas assez, pendant que les autres sont très bien organisés. Question. Qui applique le mieux la lutte des classes? Le travail ou le capital?
Voici un message pour la Pimprenelle qui disait ce mercredi 7 octobre à 15h05 sur le répondeur être manager chez France Télécom. Elle semblait trouver ses méthodes de travail parfaitement normales et elle déclare aussi que les clients sont devenus chiants et exigent de plus en plus souvent l'impossible. Bah oui, mais à mon sens, si un jour elle se sent très mal à son boulot, ça arrivera sans doute, j'espère que ça lui donnera matière à réflexion tout ça. Si les services marketing ne racontaient pas n'importe quoi et n'importe comment au grand public, y compris en faisant des promesses incroyablement mensongères techniquement, les clients non techniciens ne seraient pas devenus emmerdants. Et il me semble que chez FT Orange comme ailleurs, les gens ont trop souvent perdu le sens des rapports de cause à effet. C'est pour ça que Sarko a gagné les élections en 2007, et il se plaigne ensuite de ce qu'il fait ou a laissé faire. Le peuple pleurniche, mais vote le plus souvent contre ses propres intérêts. Moi, ça me fait douter de la démocratie, ou au moins du comment on organise le choix de nos représentants et gouvernants. Ça craint, non?
Ouais, salut Daniel, c'est Daniel de Peyrorade. Mais qu'est-ce que j'entends moi ce matin? C'est qui ce Kerviel en herbe là? Combien de primes il a touché ce matin ou hier pour aller dénoncer un sans-papier qui vient poser du pognon à cette putain de banque? Non mais attends, mais moi ça me fout des boutons et c'est pas peu dire. Il y en a plein le cul. Ils veulent quoi, là, qu'on fasse un suicide collectif au téléphone de France Inter ou dans les émissions pour peut-être réagir? C'est quoi cette société? Allez, ciao, à bientôt. Merci pour tes émissions, on continue.
J'ai bien écouté le reportage d'hier sur France Télécom et comme c'est trop vrai, je suis factrice à la Poste de Grenoble et depuis quelques mois, avec la perspective de la privatisation et des réorganisations, nous vivons des comportements analogues, dialogue unilatéral, vous pouvez encore en faire toujours plus, mensonges, attitude perverse de harcèlement de la part de l'encadrement. Et si vous dites non, c'est la sanction. Voilà Daniel, la situation à la Poste envoie de très près le même pas qu'à France Télécom. On peut espérer que la votation citoyenne de ce 3-10 mette un bémol, voire un frein à cette course effrénée. Merci Daniel de passer mon message et bravo pour toutes ces émissions.
France Télécom, le drame de France Télécom soulève une lame de fond. Une lame de fond qui arrive jusqu'au répondeur de là-bas, si j'y suis. Vous entendez ces messages? Pour tout vous dire, on est un peu débordé par ces messages, tant ils sont nombreux et qu'ils disent des choses essentielles, profondes sur les bouleversements de notre pays, le bouleversement de notre monde, ce passage notamment et essentiellement du travail, ce bouleversement, cette domination du capital. Un auditeur dit bienvenue dans le monde de demain. Bienvenue dans le monde de demain. Et ce message qu'on vient d'entendre de cette auditrice qui travaille à la Poste, on l'a entendu aussi de la part des enseignants, de la part d'auditeurs travaillant dans le secteur de la santé, ou d'autres chez Peugeot, etc., sortent du silence, sortent de l'acceptation, sortent de la soumission, réalisent qu'ils ont fait de leur mieux pendant si longtemps, en se taisant, en encaissant. Ce drame de France Télécom soulève tout ça, décoince la parole, et pas seulement la parole, mais aussi les esprits et les yeux qui, tout d'un coup, on dit, mais je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait toutes ces études, toutes ces concessions, tout ce travail, tous ces espoirs, tout cet engagement dans ma boîte, dans mon entreprise, etc. Et puis, finalement, voilà. Et France Télécom réveille tout ça. Voilà, vous comprenez qu'on va passer cette heure ensemble à nouveau autour de ce thème avec une série d'invités qui ont investi dans sur ce sujet avec des messages que vous nous avez adressés et puis des entretiens que nous avons eus avec vous par téléphone, puisque je vous avais demandé, ce que je continue de faire, vos témoignages en la matière. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Patrick, à côté de Besançon. Moi, je voudrais nuancer les avis portés sur la souffrance à France Télécom, hein, parce que c'est vrai que dans beaucoup de sites, c'est le bagne. Puis j'adresse aux familles des victimes toute ma compassion, ces victimes, comme disait Mermès et les nouveaux Yann Palek de la société. Mais je voudrais bien qu'on revienne un peu en arrière. Jusqu'en 89, les PTT, c'était une entité symbiotique. Les PTT, c'était sur un budget annexe qui aide à poste jusqu'aux anciens combattants. Le téléphone, il finançait tout ça, le déficit de la Poste, entre autres, et puis, bien sûr, le budget général. En 89, à moins que je me trompe, c'est Rocard, le néolibéral de gauche, qui scinde en deux la Poste d'un côté et France Télécom de l'autre. Bon, en 93, en octobre, il y a 70% de grévistes contre la privatisation. En 97, 90% d'actionnaires parmi les salariés. Faisant partie avec ma femme des 10% restants, je reste effaré quand en 99, ouais, l'action achetée 160 francs va aller jusqu'à 1400 francs, de voir la jubilation dans les salles de travail avec devant les tableaux de chiffres, etc. Les syndicats parfaitement complices avaient accepté la privatisation et ils avaient vendu leur droit d'aînés contre un plat de lentilles qu'on trouve maintenant trop salé. Terrorisons les terroristes, disait Pasqua, mon ministre préféré. Alors, comme notre ami suisse, je dis à mes collègues, que c'est la guerre. Et puis, à la guerre, c'est l'ennemi qui compte. Au revoir.
Oui, salut Daniel. Salut l'équipe de là-bas. Leur message aux AMG de la région de Bourg-en-Bresse. Le repère ce soir, comme deuxième jeudi de chaque mois, au restaurant bio Le Petit Milieu, rue du Peloux, à Bourg-en-Bresse. Alors, ce soir, on aura un petit résumé de la soirée débat auquel quelques-uns des AMG de Bourg ont pu assister avec un franc-tireur, un journaliste franc-tireur, François Ruffin. Donc ce soir, on parlera de la guerre des classes, parce que pendant la crise, elle continue. Allez, courage à tous et à ce soir pour les amis de la Bresse.
Salut les auditeurs, Modeste et Chéniaud de l'Isère. Le prochain rendez-vous du repère de là-bas si j'y suis, de Saint-Bernard-du-Touvet, aura lieu le vendredi 9 au Sabot des Muses. Le sujet abordé sera la crise. Est-ce la fin de la crise ou une transformation de la société? Pour nous en parler, Xavier Solaris, prof d'économie. Venez nombreux, on vous attend.
Bonjour, c'est Chris de Besançon. Merci pour votre émission, qui est un lieu d'expression intéressant. Voilà, j'ai un mari qui travaille à France Télécom, qui aimait son boulot, qu'on a déplacé et qui va mal. Mais je sais aussi que France Télécom met en évidence un problème de société qui mise tout sur la conso, pas du tout sur l'humain. Alors un petit conseil, si vous voulez voir quelqu'un qui fait quelque chose de super, tapez sur votre internet NAGE, N-A-J-E, nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Voilà une troupe qui fait vraiment du bon boulot.
TF1, l'autre grand titre de l'actualité, c'est ce nouveau suicide à France Télécom.
28 septembre 2009.
Un salarié de 51 ans, père de deux enfants, s'est jeté du haut d'un viaduc en Haute-Savoie. Dans sa lettre d'adieu, il a clairement mis en cause le climat au sein de l'entreprise.
Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à peu près, il y a une moyenne dans notre bâtiment d'une évacuation par les pompiers tous les 15 jours. De malaise sur les plateaux.
La direction a bien créé une cellule d'écoute pour les salariés en détresse.
France 24.
Mais les syndicats lui reprochent de ne pas s'attaquer à la racine du mal.
10 septembre 2009.
Ses méthodes de management.
Ce qu'il faut voir, c'est que les dirigeants de France Télécom ont poussé extrêmement loin le management par le mépris.
Il y a quelques instants, Didier Lombard, le PDG de France Télécom, est arrivé à Annecy-le-Vieux.
TF1.
Sous les huées de plusieurs salariés.
28 septembre 2009.
Criant à leur patron, honte à vous, assassin.
Moi, ce que je crois, c'est que actuellement, et ça va au-delà de France Télécom, il y a le 4 40 et il y a les gros actionnaires et eux, ils veulent du pognon. Et le pognon, c'est au détriment de qui? De nous.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Antoine Chao et Dilatébi. Orange, stressé.
Flight number 2, arriving from New York.
Le mardi après-midi, la veille, on me précise que je ne ferai plus rien dans le service parce que je suis plus bon à rien. Et j'ai plus de compétences pour arriver à être et à rester dans le service. La nuit que j'ai passée du mardi à mercredi a été justement cette nuit qui a tout mis en place, hein, qui a tout déclenché. C'était un appel au secours, c'était un devoir, c'était une déprime, un passage de déprime qui fait que, étant vraiment au fond du trou, il ne me restait plus que cette solution-là. Et je suis arrivé au bureau. Je prends la parole et j'explique que je ne suis pas d'accord, bien sûr, hein, que je suis quelqu'un qui est entier, que la nuit a été dure, que la décision que j'ai prise cette nuit, je vais l'amener jusqu'au bout, laquelle personne ne sait, il n'y a que moi qui la sais, et puis je vais jusqu'au bout de mon acte, et là par contre, ouais. Là, c'est la surprise pour tout le monde et ensuite le branle-bas de combat, oui. Le bon Dieu a voulu que... Point. Point. Là, aujourd'hui, je suis incapable de vous donner des explications. Non, non, absolument pas, absolument pas. Je passe la nuit à côté de ma femme, elle dort, moi pas. Le matin, je lui fais un câlin et je m'en vais au boulot comme d'habitude. C'est facile, hein. C'est aussi simple que ça.
La veille, mon chef de service m'a fait venir dans son bureau pour m'expliquer que n'ayant plus les compétences pour tenir mon poste, je devais en changer. Cette phrase, on l'a entendue des dizaines et des dizaines de fois dans les messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, et dans les entretiens que nous avons eus avec vous par téléphone. Vous en entendrez quelques-uns dans cette heure que nous passons ensemble. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Lionel Dervin, que ses copains appellent Yo. Lui, il a fait un acte incroyable. Prendre un couteau, se planter un couteau dans le ventre. Il a survécu puisqu'il nous parle, mais le geste est tellement invraisemblable, incroyable, qu'il a, avec d'autres, ébranlé non seulement, bien évidemment, ses collègues de France Télécom, mais on le voit, tout le pays. Tout le pays est ému, secoué, ébranlé par... Ce qui s'est fait là, ce qui s'est donné à voir là et à entendre à travers ces mots. On va passer cette heure avec des syndicalistes de France Télécom, Patrick Ackermann, qui est responsable de la Fédération Télécom chez Sud, Pierre Goja, qui est lui CFE-CGC, c'est-à-dire les cadres, avec une sociologue, Noël Burgi, et avec Yvan Duroy, qui est journaliste et qui est l'auteur du livre « Orange stressé ». J'ai emprunté son titre pour cette émission, « Le management par le stress à France Télécom ». Tous les quatre se sont investis dans l'Observatoire national du stress et des mobilités forcées, à France Télécom. C'était une initiative, je l'ai évoqué hier et vous la connaissez sans doute, des syndicats de France Télécom soutenus par un comité scientifique de sociologues, psychologues, etc., qui ont assuré la dimension et le sérieux scientifique de ce travail auprès des salariés de France Télécom et qui a abouti aux 5 M du management à France Télécom: la gestion des flux de personnel, des suppressions d'emplois massives, des reconversions intensives pour les salariés, départ obligé, mobilité forcée, l'individualisation du travail, l'isolement, l'entretien individuel. Mais on l'a compris, c'est l'affaire est beaucoup plus large que ça. Je vous conseille sur le net, de lire un texte d'un chercheur qui s'appelle Gildas Renou dans la revue du MOS. Vous savez, ce chercheur qui a été suivi par une quantité de chercheurs. Et il y a ce texte sur France Télécom. Et ce chercheur appelle France Télécom les laboratoires de l'antipathie. Qu'est-ce que c'est l'antipathie ? Ben, l'antipathie, c'est le contraire de la sympathie. Et pour lui, il voit se développer partout cet esprit d'antipathie, c'est-à-dire le contraire de la solidarité, du lien, du respect de l'autre, etc., dans nos sociétés. Et ainsi, il dénonce... désormais, dit-il, plus on grimpe dans la hiérarchie, plus les salariés ont acquis cette grande qualité, savoir fermer les yeux et les oreilles à la souffrance d'autrui, savoir cacher les existences humaines meurtries derrière des ritournelles souriantes et aseptisées, productivité, efficacité, compétitivité, excellence, modernisation, leadership, l'antipathie est devenue une forme de compétence valorisée à France Télécom, comme dans beaucoup de grandes entreprises. Günther Anders, dans L'obsolescence de l'homme, en 1956, disait ceci. On ne mesure pas la puissance d'une idéologie aux seules réponses qu'elle est capable de donner, mais aussi aux questions qu'elle parvient à étouffer. C'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h. Orange Tressé.
Positif, soyons positifs. Ah, bon, 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 positif. Positif, ah, bon, 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 positif. Soyons positifs. Ah, bon, 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 positif.
Moi, j'étais vraiment choqué. C'était un mouvement de panique tout de suite après l'acte. On a fait tout ce qu'on a pu pour les secours, les pompiers, essayer de lui parler, de l'assister vraiment jusqu'à temps que les secours l'emmènent à l'hôpital. C'est des moments terribles à vivre. On appelle les secours, on attend après, et on ne sait pas, on ne maîtrise pas ce qui va se passer après, quoi. On ne sait pas si notre collègue va s'en sortir et tout. On ne connaît pas les conséquences du geste, quoi, hein, qui... Enfin, on a travaillé pas mal de temps en binôme tous les deux, et souvent il m'en parlait. Il me disait, c'est pas possible que... Regarde encore un décès, encore ci, encore ça. On a eu un collègue de Troyes, hein, qui a pas longtemps aussi s'est mis sous un train. Ça devait être au mois de juillet. Enfin, je sais plus. On est tous des anciens de France Télécom. Hein, on travaille... Enfin, la moyenne d'âge, c'est 50 ans, donc on a tous vécu les mêmes années, les mêmes évolutions, les mêmes changements au niveau de cette entreprise. Voilà, donc on ne peut pas être insensible à tout ce qui se passe autour de nous.
Témoignage d'un collègue de Lionel à Troyes. On retrouve donc nos invités... je rappelle Yvan Duroy, qui est l'auteur du bouquin Orange Stressé, Noël Le Burgi, qui est sociologue, Patrick Ackermann, Télécom Sud, et Pierre Gaujat, CGC France Télécom.
Nous, à l'Observatoire, nous avons l'habitude de dire que les suicides ne sont que la partie émergée
Noël
de
Burgi.
L'iceberg. Et je voudrais poser la question de savoir combien de suicides faudra-t-il qu'il y ait à France Télécom et peut-être ailleurs aussi, pour que finalement on veuille bien entendre que ce ne sont pas des questions personnelles de l'ordre du privé qui sont exprimées là. Combien de suicides pour que ces actes qui sont faits dans l'espoir qu'ils servent à quelque chose et à la collectivité, ce sont des événements maintenant publics, pour qu'on prenne véritablement la mesure des très mauvaises conditions de travail à France Télécom.
Alors, l'Observatoire du stress, qui peut dire comment il est né, comment il a été créé, Patrick Ackermann ?
Ça fait plusieurs années qu'à France Télécom, il y a une notion de souffrance qui alerte les syndicats. Et en mai-juin 2007, donc deux syndicats décident de mettre en place un observatoire pour qu'on ait évidemment maintenant des éléments tangibles de connaissances, d'enquêtes, de statistiques. Il faut aussi parler comme ça. Et il nous semblait que c'était sous forme d'une association, d'un observatoire, que c'était le plus facile. Je dois rajouter aussi que c'est une initiative syndicale, mais on a, avec deux syndicats particuliers, un Sud, l'autre CGC, donc
c'est pas tout à fait
l'alliance de la carpe et du lapin, diront certains, mais ça a bien fonctionné entre nous. Je pense qu'on a réussi à avoir un langage commun, ce qui n'était pas évident. Et surtout, c'est la rencontre avec des sociologues, avec des ergonomes, avec des scientifiques, la biologie en particulier. Donc je pense qu'on peut dire quand même que l'Observatoire a été l'artisan de la dénonciation de la situation actuelle.
Pierre Goja, comment ça a fonctionné, cet observatoire ?
Un des points de départ, c'était le déni total de l'entreprise, des phénomènes. Devant cette insistance à dénier, eh bien les syndicats et l'Observatoire se sont armés pour collecter les données d'abord, ensuite comprendre les phénomènes, et ensuite passer à l'action après avoir réuni tous ces matériaux. Et pouvoir effectivement prévenir les comportements déviants.
Aujourd'hui, je me sens abandonnée à France Télécom. Je m'appelle Anne-Marie, ça fait 30 ans que je travaille à France Télécom. J'ai l'impression qu'on est géré comme des pions. Avant, il y a plusieurs années, on était heureux de venir travailler, on faisait partie d'un collectif. On allait tous dans le même sens et franchement, ça se passait bien. Et je pense qu'on fournissait plus de travail dans cette ambiance que maintenant. Je pense que ça a été un petit peu organisé, les gens, on les a un petit peu isolés. Et puis, on fait notre travail qu'on nous donne, et puis, en pensant pour le client, et puis c'est tout. Depuis qu'on sait que France Télécom doit supprimer du personnel, on sait évidemment qu'on est fonctionnaire, donc on doit quitter, on ne peut pas nous licencier pour l'instant, donc ils emploient d'autres méthodes pour qu'on quitte l'entreprise. Des pressions morales, si on veut, on sait bien, on peut nous dire si tu n'es pas satisfaite, tu peux quitter l'entreprise, on nous propose des places. Moi, personnellement, j'ai déjà changé au moins 6 fois de poste en une dizaine d'années. Par exemple, moi, je pense à tous mes collègues qui ont acquis des compétences énormes, par exemple des services entiers de comptabilité, tout ça. Du jour au lendemain, les services sont fermés parce que ça s'est recentralisé. On a juste proposé à mes collègues d'aller sur des plateformes téléphoniques. Et donc, ces plateformes-là, les managers, ils vous mettent la pression pour les résultats, pour les appels, le temps de toilette est compté. Voilà, c'est vraiment une dégradation des conditions de travail.
Une énorme prise de conscience à travers les salariés de France Télécom, mais à travers eux, dans tout le pays, au moins pour l'instant dans les grandes entreprises. On retrouve nos invités, je rappelle Yvan Duroy, Noël Burgi, Pierre Goja et Patrick Ackermann. Patrick Ackermann.
Nous, on a constaté, je pense un peu le résultat de nos travaux, c'est qu'il y a une politique de management qui s'est mise en place à France Télécom, qu'on peut caractériser comme management par le stress. Bon, il y a une personne à Marseille qui s'était suicidée, qui disait, on parlait de management par la terreur. Sur France Télécom, on pourra parler aussi de manière plus générale, parce que France Télécom n'est pas un îlot particulier. Les grandes entreprises sont souvent soumises à ce genre de politique.
Évidemment que ce type de management n'est pas exclusif à France Télécom. Noël Burgi, vous avez une vue un peu plus large puisque vous êtes sociologue et que vous avez une expérience. Comment ça se passe dans d'autres entreprises ? Est-ce qu'on est là en présence d'un type de management qui s'applique à toutes les entreprises, les grandes entreprises aujourd'hui ?
Oui, nous sommes en présence d'un type de management qui tend à devenir la règle partout. Pensez à ce qui se passe à l'hôpital, pensez à ce qui se passe à la poste aujourd'hui, pensez à ce qu'on est en train d'introduire dans l'enseignement supérieur, la recherche, dans toutes les grandes entreprises. Mais bon, c'est pas simplement en France aussi, on peut parler d'autres pays à l'étranger où ce type de management est en train de s'est mis en place depuis, en fait, c'est, si vous voulez, c'est là quand même ce qu'on appelle la révolution managériale depuis le début des années 80. Bon, aux États-Unis aussi. Russie, bien sûr, au Japon, n'en parlons pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les dirigeants de France Télécom ont poussé extrêmement loin la gestion, le management par le mépris, non seulement du travail, réaliser de la valeur du travail des agents, mais y compris le mépris de l'autre en tant que personne ayant une valeur intrinsèque. Et moi, je pense que là, on a une des causes très importantes qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer à France Télécom. C'est un système de destruction systématique de l'estime de soi, qui est facilité par quelque chose qui s'est produit historiquement au début des années 90, le passage du métier à la fonction. Le métier, qui est une notion et une réalité, qui inclut dans sa définition l'aptitude individuelle acquise après une expérience professionnelle, qui repose sur un vrai savoir reconnu, valorisé sur le marché du travail, positionné dans une grille de salaire. Le métier a été détruit pour passer à un mode de gestion des ressources humaines théoriquement plus performant et qui met en avant la fonction qui est une notion beaucoup plus floue, c'est-à-dire qui renvoie à une liste de tâches et de compétences, c'est-à-dire des aptitudes professionnelles, et évaluées, il faut l'insister là-dessus, individuellement, selon des critères qui ne garantissent pas que l'évaluation va être objective et qu'elle va être juste. C'est pour ça que nous aussi, dans notre enquête, on s'est aperçu que le moment des évaluations était un des moments clés à partir desquels se produisait à la fois l'injustice et la pression, le stress de plus en plus. On vous donne des objectifs, mais on vous laisse entendre de façon toujours très polie que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que l'on attend de vous. Mais en même temps, les prescriptions qui vous sont faites, les objectifs qui vous sont donnés et qui sont totalement contradictoires et qui sont impossibles parce que nous sommes dans un système d'excellence. Et c'est une excellence du toujours plus, du toujours mieux, toujours plus productif. Même si c'est impossible à atteindre, il faut l'atteindre. Cette excellence, cet idéal est sanctionné si vous n'atteignez pas les objectifs qu'on vous a donnés. Et même si on ne vous donne pas les moyens de remplir vos objectifs, c'est votre histoire.
France Télécom, une entreprise aux 100 000 fonctionnaires. Beaucoup trop au goût de la direction.
France 2.
Et comme il est impossible de licencier un fonctionnaire, France Télécom ferait donc tout pour qu'il parte de lui-même.
1er septembre 2004.
Et pour faire craquer un fonctionnaire, une technique aurait fait ses preuves. La mutation dans un centre d'appel. Résultat, les salariés de France Télécom n'auraient pas le moral. Une enquête menée par un comité d'hygiène et de sécurité est vite devenue célèbre à France Télécom. 54% des agents seraient découragés ou nerveux. 40% auraient des troubles du sommeil et 22% prendraient en conséquence des médicaments. Mais pour certains observateurs, ce mal-être au travail serait plutôt dû à la fin du monopole et à l'arrivée d'une concurrence féroce. Pour l'instant, pas de réaction de la part de la direction de France Télécom, qui, hors caméra, souligne que ses salariés ne sont pas plus malades que ceux d'une autre entreprise.
Éric Longeret, élu CFDT au comité central d'entreprise de la région Sud-Est. Les responsabilités, elles viennent d'une structure qui a été mise en place il y a quelques années maintenant, qui s'appelle OPF, en fait, c'est Opération France, qui est une sorte d'état dans l'état France Télécom, qui date de l'époque où France Télécom avait une très très grosse dette. On a eu 70 milliards de dettes suite à l'explosion de la bulle Internet dans les années 2001. Et donc, pour rembourser cette dette, on a fait venir ces fameux cabinets de consultants anglo-saxons qui nous ont aidés, effectivement, qui ont mis un traitement de cheval, comme ils ont fait dans d'autres boîtes qui étaient endettées ou qui étaient en faillite. Ils ont mis un traitement de cheval qui a permis de sauver l'entreprise. Mais ce sont des traitements qui sont destinés au court terme, vraiment exceptionnels, où on fait donner un maximum aux salariés pour pouvoir rembourser la dette, pour pouvoir s'en sortir sur 2 ou 3 ans. Sauf que comme ça s'est très bien passé, le responsable de ce cabinet anglo-saxon, qui s'appelle Pierre-Louis Vénès, a été engagé comme directeur pour la France. Et il a créé cet organisme totalitaire qui s'appelle Opération France, néolibéral extrême, et qui en fait continue de faire une sorte de reconstruction permanente de l'entreprise pour faire cracher un maximum de cash pour les, les actionnaires, puisque c'est le but qu'on lui a fixé, hein, que France Télécom, en particulier la branche France, soit rentable. Et lui, pour que ce soit rentable, eh bien, il a mis en place ce système un peu qu'on appelle management par la terreur, qui fait que les salariés sont mis constamment à donner le plus possible. Le salarié, c'est devenu une machine à cracher du cash. Et il faut qu'il donne chaque mois plus que le mois d'avant. C'est un fonctionnement donc qui, jusqu'à présent, a été testé sur de courtes périodes de temps dans beaucoup de grandes entreprises, en particulier de grandes entreprises anglo-saxonnes. Mais France Télécom est, à ma connaissance, la première entreprise où ce soit devenu un principe de fonctionnement. Donc, tous les soucis que l'on a, tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux dans l'entreprise, hein, ce qui est un terme, vous l'avez compris, pour cacher les suicides, ça vient du fait que les gens ne supportent plus ce qui devrait être normalement limité dans le temps, mais qui est devenu un principe de fonctionnement qui dure.
Le téléphone, c'est merveilleux, quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes, et l'on se dit des doux mensonges. Le téléphone, c'est amusant, on s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
Allô?
Zut, c'est coupé.
Allô? 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 Allô?
On va revenir avec Yvan Duroy à l'histoire un peu plus, sur le temps un peu plus long. Expliquez-nous un peu ce basculement du temps où France Télécom, c'était une administration. Et comment c'est devenu ensuite une entreprise peu à peu privée?
Sur l'histoire de France Télécom, donc, le premier basculement, c'est le passage du statut administratif. Donc, France Télécom faisait partie avant des PTT avec la Poste. Et changement de statut devient une entreprise publique séparée de la Poste en 1990, sous le gouvernement Rocard. Et donc c'est le fruit d'une longue négociation, notamment menée en particulier avec la CFDT, pour changer le statut de l'administration en entreprise. Le deuxième basculement, c'est en 1996, sous le gouvernement Juppé, où là, c'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec la Poste. France Télécom passe au statut de société anonyme, avec la garantie à l'époque donnée que l'État resterait l'actionnaire principal et majoritaire de l'entreprise. Mais s'ensuit une ouverture progressive du capital, hein, qui est menée de 1997 à 2002 en gros, où là, à la fois les salariés de France Télécom et aussi le grand public a la possibilité d'acquérir des actions France Télécom. Donc France Télécom en 1997 est coté en bourse. Et c'est l'entrée de l'entreprise la privatisation progressive de l'entreprise qui se conclut en 2005 au moment où l'État reste l'actionnaire principal, mais descend en dessous de la barre des 50% de la société. Donc aujourd'hui, l'État est autour de 26%. Et donc, à partir de la fin des années 90, début 2000, il y a les logiques financières pénètrent l'entreprise. En même temps, l'entreprise souhaite intervenir sur tous les marchés européens, y compris mondiaux, donc achète d'autres opérateurs de téléphonie ici ou là. C'est le moment où le secteur des télécommunications est dérégulé au niveau européen, en 98, donc l'ouverture à la concurrence totale du secteur. Et donc, France Télécom doit se transformer en tant qu'entreprise pour s'adapter à ces changements-là.
Du ministère des PTT, M. Brune annonce le lancement d'un nouvel emprunt.
Dans votre propre intérêt, souscrivez à l'emprunt PTT.
1950, le financement des télécommunications pose déjà problème. Depuis lors, l'administration des PTT est devenue France Télécom, d'abord publique à 100%. L'État ne cesse ensuite de se dégager du capital de l'opérateur, jusqu'à l'annonce ce matin du passage sous la barre des 50%.
France 2.
France Télécom privatisée, une opération qui rapportera 5 milliards d'euros à l'État.
1er septembre 2004.
L'État réalisera une plus-value.
Nicolas Sarkozy.
Ça lui permettra de rembourser sa dette, de désendetter la France et donner à l'entreprise la souplesse de gestion dont elle a besoin. Je crois que c'était une opération attendue, importante et qu'elle est bienvenue.
Le paradoxe, c'est que cette entreprise, dorénavant privée donc, emploie plus de 100 000 fonctionnaires. Et si à France Télécom une page se tourne, les petits actionnaires réunis cet après-midi à Paris, eux, ne s'émeuvent pas de cette privatisation.
normal.
Tous les groupes en Europe sont dans cette direction-là et c'est l'évolution inévitable sur eux.
Vous avez parlé de dans votre livre, il y a une rencontre que vous faites avec Michel Rocard et qui vous explique comment, ben, ce que vous venez d'indiquer, comment on a décidé, cette évolution d'une administration à une entreprise de droit privé. Et il vous dit, bah oui, on a un petit peu fait du Milton Friedman à l'époque. Donc on voit bien, à travers cette phrase un peu désinvolte, enfin telle que vous la rapportez en tout cas, qu'il y a dans toute cette histoire, parce que là, on essaie de remonter peu à peu dans les causes, il y a bel et bien une cause idéologique.
Oui, au départ, il y a un choix politique et économique de déréguler le secteur des télécommunications. Parce que dans les années 80, en Europe, c'est partout des monopoles publics qui s'occupent de proposer aux usagers les différents services de téléphone. Aux États-Unis, c'est AT&T, qui est un monopole privé. Alors, il faut se rappeler du contexte de l'époque, où fin de l'Union soviétique, chute du mur. Donc tout ce qui est service public, administration publique, n'a pas vraiment bonne cote auprès des penseurs, des économistes.
À l'époque, la Radio France était une entreprise stalinienne. J'ai entendu ça dans pas mal de bouches à l'époque.
Peut-être. Et donc, le fait de déréguler le secteur des télécommunications et donc d'ouvrir à la concurrence s'impose comme un fait naturel, en disant, voilà, c'est la seule alternative qu'il y a, c'est d'ouvrir au niveau européen le secteur des télécommunications, comme le font les États-Unis de Ronald Reagan, comme le font juste après le Royaume-Uni de Margaret Thatcher. Et donc l'Europe se dit, à nous de suivre cette pente-là et d'ouvrir le secteur, sans qu'il y ait de vrais débats publics, parce que est-ce que les télécommunications doivent être considérées comme un bien public. Fondamental, un bien public? C'est un débat qui n'a pas été mené à l'époque. Et le fait de déréguler le secteur et donc de privatiser progressivement les entreprises qui interviennent, ça s'impose comme une sorte de loi naturelle à ce moment-là.
On va retrouver nos invités, mais vous écoutiez ce témoignage d'un auditeur que nous avons joint par téléphone.
Bon, moi je suis issu d'une famille de fonctionnaires des PTT. Et je suis rentré au PTT en 1979. À partir de là, j'ai suivi un parcours professionnel en suivant des cours du soir organisés par les PTT pour passer des concours. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à peu près, il y a une moyenne dans notre bâtiment d'une évacuation par les pompiers tous les 15 jours de malaise sur les plateaux. Je vais voir les salariés, je leur explique quand ils reviennent. Je joue toujours mon rôle de CHSCT. Les gars, vous avez eu un arrêt sur votre lieu de travail. Il faut faire une déclaration d'accident. C'est pas vous qui allez décider si c'est un accident du travail ou l'employeur, c'est la commission. Donc faites les déclarations d'accident. Il n'y a personne qui les fait, monsieur. Et quand les gens les font, le DRH leur envoie une lettre recommandée en leur disant « Ce n'est pas un accident du travail ». Et alors, si les gens sont influençables, eh bien, ils n'insistent pas plus. Mais s'ils connaissent le droit, etc., le droit du travail, les droits de l'employeur, à ce moment-là, ils le font. Mais je ne vous dis pas dans quelle galère ils s'embarquent. Hein. Je ne vous dis pas. Ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est que ce soit repris dans les médias. Parce qu'il y a une chape de plomb qui existait, qui nous empêchait de nous exprimer. Et on était passible de mesures disciplinaires s'il s'avère qu'on dénigre la boîte. Il faut le savoir, ça. Hein. C'est une charte que France Télécom oblige ses salariés à signer. Moi, je ne l'ai pas signé parce que je suis passé devant le juge et j'ai prêté serment. Donc ça, j'en ai rien à foutre de leur charte. Mais la charte est largement dépassée, et heureusement. Et donc, ça nous permet entre nous de pouvoir échanger. Aujourd'hui, on va pouvoir agir en pouvant parler. Et ça, c'est énorme. Si vous saviez comme c'est important, ça. Le fait de pouvoir parler, dire « Non, ça va pas. Non, ça, on peut pas le faire. » Attention, ça ne passera pas le faire. Mais au moins, on va pouvoir s'exprimer là-dessus. Et ça, croyez-moi, ça n'a aucun prix. Nous, on a le manager, le premier jour où il est arrivé sur le plateau, il a dit, elle a dit,
je ne suis pas payé pour être aimé. Et dans la semaine qui a suivi, elle a enlevé un 1/30 à un agent qui était présent et de la CGT pour objectif non atteint. Et bien, ça a mis au carré les autres. C'est le régime de la terreur.
On retrouve nos invités, je rappelle, Pierre Gojas, CGC, Patrick Ackermann, Sud, syndicat Sud, Noël Burgi, sociologue, et Yvan Duroy, auteur de Orange Stressé. Patrick Ackermann.
Je rebondis sur le fait que Yvan Duroy parle de, qu'il n'y a pas eu de débat public sur est-ce que les télécommunications sont ou pas un bien public. Là, il y a le débat rebondi à l'occasion de la loi Hadopi, par exemple, sur l'Internet, à quoi ça sert, que, il y a des questions de société qui sont posées dans, derrière les questions des télécommunications. Nous, on y est très, très sensible. Et effectivement, d'ailleurs, je pense que si avant, c'était des statuts de monopole, c'est parce que les États voyaient dans les communications, finalement, quelque chose qu'il fallait qu'ils contrôlent. Alors, ça a l'aspect aussi contradictoire. Donc, là, on passe à une dérégulation totale. Nous, on pense que ça se discute complètement. Alors, sans doute qu'il y a, derrière ce choix-là, la perspective de juteux profit. C'est quand même un secteur qui était prévu.
C'est pas peut-être. Là, c'est pas
non, mais attendez, je me dis peut-être de manière ironique, mais... Donc, déréguler, c'est en gros filer un gâteau juteux, un gâteau important aux investisseurs, avec, je pense, quand même à l'époque, des dirigeants politiques qui n'ont rien compris, qui ont fait que tout à coup, leur télécommunication, qui était peut-être une base aussi de citoyenneté, on peut le prendre comme ça, a été vendue, morcelée, éclatée, livrée à des appétits privés qui n'en ont rien à foutre, il faut le dire, de tout, du contenu bien public que peuvent avoir les télécommunications. Donc il y a un choix politique au départ qui est tout à fait contestable, qui a été pris avec des conséquences sociales, citoyennes, qui sont très dommageables, tant au niveau français, européen qu'au niveau international.
Pierre Gojas, votre sentiment là-dessus sur l'intention politique, la base, le socle idéologique et politique de toute cette affaire.
Il ne faut jamais oublier que les télécommunications constituent une infrastructure vitale pour un pays moderne et même pour les pays moins modernes. Donc clairement, il y a une responsabilité sociétale tout à fait importante. Maintenir les salariés dans des conditions de travail convenables pour que cette infrastructure vitale soit au service des intérêts supérieurs du pays, ça a une dimension politique, qu'on le veuille ou non. Quand on fait des télécoms, on doit être citoyen, on doit être une entreprise citoyenne. Et dans ce qui a précédé, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'aspects où France Télécom n'était pas citoyenne du tout.
Noël Burgi, réaction ?
Comment dire ? Ce qu'on a vu, c'est que la dérégulation a été aussi une entreprise systématique de fragilisation des droits sociaux. Au nom de la flexibilité, etc., etc. Des acquis sociaux, bien entendu. Et au nom de la flexibilité...
Mais dans l'idée d'acquis, il y a l'idée de lutte pour les acquérir.
Bien entendu, tout à fait, je suis d'accord avec vous. 1000 fois d'accord. Et tout ça, c'était au nom de la concurrence, etc. On a mis les gens en concurrence les uns avec les autres et on a développé les égoïsmes sociaux. Alors, ça me fait revenir à ce management par le mépris qui est aussi une tendance politique aujourd'hui. On gère par le mépris, d'une part, en réorganisant, en restructurant en permanence... à la fois les politiques ou bien les entreprises, mais en traitant les gens et les citoyens et les salariés comme des particules élémentaires, ou bien comme des lignes budgétaires, comme le dit Yvan dans son livre. Et d'autre part, lorsque vous vous plaignez en tant que salarié et que vous dites que vous n'avez pas les moyens, on ne vous donne pas les moyens pour remplir vos objectifs, qu'il y a une intensification du travail, que les formations n'existent plus, que c'est des informations, etc., que les conditions de travail sont détestables, on vous répond que les plaintes sont futiles. Vos plaintes sont futiles et qu'elles témoigneraient de votre narcissisme. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a un déni d'altérité là, il y a un déni de reconnaissance et qui fait que justement la réaction, c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre, la réaction à ce mépris, à cette expérience de mépris est très paradoxalement un sentiment de culpabilité chez le salarié. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement la politique du mépris, mais c'est également l'action conjointe du mépris et de l'individualisation des rapports sociaux et des évaluations. Et qui font que la culpabilité va naître de la dissolution de la confiance en soi en tant qu'être digne d'affection, premièrement, de la perte du respect de soi en tant que personne participant à une communauté d'égaux en droit. Et puis finalement de la perte de l'estime de soi comme sujet contribuant par ses pratiques à la vie commune. Ça, c'est le cœur du problème. Et qui fait que vous avez des réactions qui vont depuis un signe qui est un symptôme, l'absentéisme, jusqu'au suicide.
Je voudrais qu'on finisse avec Yvan Duroy, enfin avec les conclusions qui parcourent tout votre bouquin. C'est un peu le côté France Télécom, laboratoire du pire. C'est-à-dire que d'ici un an ou deux, je risque de recevoir ici les gens de, de La Poste ou les gens de l'Éducation nationale. Et puis un jour, les confrères de Radio France, peut-être.
La question, c'est la... Quelle est la mission aujourd'hui de France Télécom ? Parce qu'on est passé en une décennie, en gros, d'une entreprise qui avait pour objectif de relier toutes les familles françaises au téléphone, au Minitel et aux différents instruments de télécommunication, à aujourd'hui, pour reprendre les mots de Michel Bon, le prédécesseur de Didier Lombard, une machine à cash. Donc aussi pour ses actionnaires, c'est une machine à cash, donc une machine à produire du fric. Et tout le reste, l'utilité sociale de France Télécom, la mission de production ou technique qu'elle peut avoir, et donc derrière le travail de ses salariés, est complètement niée, passe au second plan, voire au troisième plan, derrière cette première fonction qui est générer de l'argent pour continuer à acheter ici ou là de nouveaux opérateurs, pour continuer à faire des bénéfices, pour augmenter le cours de l'action, etc. etc. Donc une évaluation qui n'est que financière. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, et là, ça va bien au-delà de France Télécom, est-ce que ça pose la question des modes de gouvernance des entreprises ? Est-ce qu'elles sont seulement évaluées en matière financière ? Après, il y a d'autres indicateurs qui peuvent rentrer en compte pour ne pas rentrer dans cette espèce de délire dans lequel le capitalisme est rentré aujourd'hui.
Vos réactions, l'un à l'autre, pour finir ? Conclusion ? Provisoire ? Ouais. Patrick Ackermann.
Écoutez, moi j'adhère totalement à l'idée que France Télécom n'est pas indépendante de ce qui se passe dans les entreprises, mais que France Télécom est devant l'actualité, c'est une actualité très brûlante. Moi j'espère là que ce qui peut se passer maintenant à France Télécom, qui est sous les feux des médias, mais aussi qui est sous les feux de Xavier Darcos, hein, de l'État, que les mesures de sauvegarde, puisqu'on en parle des mesures urgentes là, ces mesures-là puissent être une référence aussi pour dire, il faut dire stop au harcèlement, il faut dire stop à la souffrance au travail, il faut dire stop aux suppressions d'emplois, une logique boursière et financière de gestion des entreprises. J'espère qu'on aura apporté notre pierre à ça, c'est de faire émerger ce débat-là et puis qu'il soit pris dans d'autres entreprises. Il faut que ce débat-là devienne un débat sociétal.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire un retour, un contrôle d'une entreprise comme celle-là par l'État.
Nous, enfin, on est une organisation syndicale qui souhaite effectivement que la question des télécommunications soit recentrée sur la question du bien public. Alors, en France, le débat peut peut-être prêter un peu à sourire, parce que c'est une très grosse entreprise, puis on n'est pas tellement dans la mode des renationalisations, ça je vous l'accorde. Par contre, il faut bien penser qu'au niveau international, il y a des pays, et je prendrai un exemple, c'est le Sénégal, hein, où France Télécom est implantée là-bas, et pas qu'au Sénégal, hein, je veux dire, mais où les États sont dépossédés de leur outil télécommunication par des puissances extérieures. Même, enfin, France Télécom, ça peut être aussi d'autres entreprises, et ça pose évidemment un problème énorme dans ces pays-là. Donc la question se pose vraiment à une échelle mondiale. Internet est le plus spectaculaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça va devenir la norme de communication, sans doute dans les 10 ans qui viennent. Ça pose la question du rapport au public. L'État, enfin bon, en tout cas, ça peut passer par un contrôle des États, mais en tout cas, le rapport de la citoyenneté aux télécommunications nous paraît important aujourd'hui.
Pierre Bejar.
En dépit de la douleur et de la souffrance dont on a beaucoup parlé, il faut rappeler fortement que l'ensemble des salariés aiment leur entreprise et ils sont très attachés à France Télécom, qui n'est pas forcément la même France Télécom que celle de leurs dirigeants. C'est-à-dire que c'est une France Télécom humaine qu'ils aiment, eux. Et il y a un grand fossé d'incompréhension qui vient du fait que l'entreprise est financièrement extrêmement florissante et qu'elle est socialement, pour une bonne part, irresponsable.
Merci à tous, Pierre Goja, CGC Télécom, Patrick Ackermann, Sud Télécom, Noël Burgi, sociologue, et Yvan Duroy, auteur de Orange Stressé. Le site de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, vous le trouverez facilement sur Internet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». Et vous pouvez également réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter sur ce site ou bien sur labas.org, la technique aujourd'hui, Ludivine Caron et Christian Thibaudeau. C'est Coyenne Guyenne et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attend vos messages sur le répondeur de la base UGSU au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37. Nous attendons avec impatience vos messages et vos réactions sur cette émission. Réclame.